Alphonse Daudet, le Nabab. Chapitre 19, deuxième partie. Les amis du défunt qui suivaient formaient un groupe assez restreint, singulièrement bien choisi pour mettre à nu le superficiel et le vide de cette existence de grand personnage réduite à l'intimité d'un directeur de théâtre trois fois failli, d'un marchand de tableaux enrichi par l'usure, d'un gentilhomme taré et de quelques viveurs et boulevardiers sans renom. Jusque-là, tout le monde allait à pied, était tenu. À peine dans le bureau parlementaire, quelques calottes de soie noire qu'on avait mises timidement en approchant des quartiers populeux. Après, commençaient les voitures. À la mort d'un grand homme de guerre, il est d'usage de faire suivre le convoi par le cheval favori du héros, son cheval de bataille, obligé de régler au pas ralenti du cortège cette allure fringante qui dégage des odeurs de poudre et des flamboiements d'étendards. Ici, le grand coupé de Morat, ce huit ressorts qui le portait aux assemblées mondaines ou politiques, tenait la place de ce compagnon des victoires, ses panneaux tendus de noir, ses lanternes enveloppées de longs crêpes légers flottant jusqu'à terre, avec je ne sais quelle grâce féminine ondulante. C'était une nouvelle mode funéraire, ces lanternes voilées, le suprême chic du deuil, et il seyait bien à ce dandy de donner une dernière leçon d'élégance aux Parisiens accourus à ses obsèques comme à un long chant de la mort. Encore 3 mètres de cérémonie, puis venait l'impassible pompe officielle, toujours la même pour les mariages, les décès, les baptêmes, l'ouverture des parlements ou les réceptions de souverains, l'interminable cortège des carrosses de gala, étincelant, large glace, livrée voyante, chamarrée de dorures, qui passait au milieu du peuple ébloui auquel il rappelait les contes de fées, les attelages de Cendrillon, en soulevant de ses Oh ! D'admiration, qui montent et s'épanouissent avec les fusées, les soirs des feux d'artifice. Et dans la foule, il se trouvait toujours un sergent de ville complaisant, un petit bourgeois érudit et flâneur, à l'affût des cérémonies publiques, pour nommer à haute voix tous les gens des voitures à mesure qu'elles défilaient avec leurs escortes réglementaires de dragons, cuirassiers ou gardes de Paris. D'abord les représentants de l'empereur, de l'impératrice, de toute la famille impériale. Après, dans un ordre hiérarchique savamment élaboré et auquel la moindre infraction aurait pu causer de graves conflits entre les différents corps de l'État, les membres du conseil privé, les maréchaux, les amiraux, le grand chancelier de la Légion d'honneur, ensuite le Sénat, le corps législatif, le conseil d'État, toute l'organisation justicière et universitaire dont les costumes, les hermines, les coiffures, vous ramenait au temps du vieux Paris quelque chose de pompeux et de suranné, dépaysé dans l'époque sceptique de la blouse et de l'habit noir. Félicia, pour ne pas penser, attachait volontairement ses yeux à ce défilé monotone, d'une longueur exaspérante, et peu à peu, une torpeur lui venait, comme si par un jour de pluie sur le guéridon d'un salon ennuyeux, elle eût feuilleté un album colorié, une histoire du costume officiel depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. Tous ces gens, vus de profil, immobiles et droits derrière les larges panneaux de glace, avaient bien la physionomie de personnages d'enluminure, avancés au bord des banquettes pour qu'on ne perdît rien de leurs broderies d'or, de leurs palmes, de leurs galons, de leurs soutaches, mannequins voués à la curiosité de la foule et s'y exposant d'un air indifférent et détaché. L'indifférence, c'était là le caractère très particulier de ces funérailles. On la sentait partout, sur les visages et dans les cœurs, aussi bien parmi tous ces fonctionnaires dont la plupart avaient connu le duc de vue seulement, que dans les rangs à pied entre son corbillard et son coupé, l'intimité étroite ou le service de tous les jours. Indifférent et même joyeux, le gros ministre vice-président du conseil, qui, de sa poigne robuste habituée à fendre le bois des tribunes, tenait solidement les cordons du poêle, avait l'air de le tirer en avant, plus pressé que les chevaux et le corbillard de mener à ses 6 pieds de terre l'ennemi de 20 ans, l'éternel rival, l'obstacle à toutes les ambitions. Les 3 autres dignitaires n'avançaient pas avec cette même vigueur de cheval de remonte, mais les longues laisses flottaient dans leurs mains excédées ou distraites, d'une mollesse significative. Indifférents les prêtres, par profession, indifférents les gens de service, qu'ils n'appelaient jamais que « choses » et qu'ils traitaient, en effet, comme des choses. Indifférent Monsieur Louis, dont c'était le dernier jour de servitude, esclave devenu affranchi, assez riche pour payer sa rançon. Même chez les intimes, ce froid glacial avait pénétré. Pourtant, quelques-uns lui étaient très attachés, Mais Kardaïak surveillait trop l'ordre et la marche de la cérémonie pour se livrer au moindre attendrissement, d'ailleurs en dehors de sa nature. Le vieux Montpavon, frappé au cœur, aurait trouvé d'une tenue déplorable, tout à fait indigne de son illustre ami, la moindre flexion de sa cuirasse de toile et de sa haute taille. Ses yeux restaient secs, aussi luisants que jamais, puisque les pompes funèbres fournissent les larmes des grands deuils, brodées d'argent sur drap noir. Quelqu'un pleurait cependant, là-bas, parmi les membres du bureau, mais celui-là s'attendrissait bien naïvement sur lui-même. Pauvre Nabab, amolli par ses musiques, cette pompe, il lui semblait qu'il enterrait toute sa fortune, toutes ses ambitions de gloire et de dignité, et c'était encore une variété d'indifférence. Dans le public, le contentement d'un beau spectacle, cette joie de faire d'un jour de semaine un dimanche, dominait tout autre sentiment. Sur le parcours des boulevards, les spectateurs des balcons auraient presque applaudi. Ici, dans les quartiers populeux, l'irrévérence se manifestait encore plus franchement. Des blagues, des mots de voyous sur le mort et ses frasques que tout Paris connaissait, des rires soulevés par les grands chapeaux des rabbins, la touche du conseil des prud'hommes se croisait dans l'air entre deux roulements de tambour. Les pieds dans l'eau, en blouse, en bourgeron, la casquette levée par habitude, la misère, le travail forcé, le chômage et la grève regardaient passer en ricanant cet habitant d'une autre sphère, ce brillant duc descendu de tous ses honneurs et qui jamais peut-être de son vivant n'avait abordé cette extrémité de ville. Mais voilà, pour arriver là-haut où tout le monde va, il faut prendre la route de tout le monde, le faubourg Saint-Antoine, la rue de la Roquette, jusqu'à cette grande porte d'octroi si largement ouverte sur l'infini. Et dame, cela semble bon de voir que des seigneurs comme Morat, des ducs, des ministres, remontent tous le même chemin pour la même destination. Cette égalité dans la mort console de bien des injustices de la vie. Demain, le pain semblera moins cher, le vin meilleur, l'outil moins lourd, quand on pourra se dire en se levant « Tout de même, ce vieux Morat, il y est venu comme les autres !» Le défilé continuait toujours, plus fatigant encore que lugubre. À présent, c'étaient des sociétés chorales, les députations de l'armée, de la marine, officiers de toutes armes se pressant en troupeau devant une longue file de véhicules vides, voitures de deuil, voitures de maîtres alignées là pour l'étiquette. Puis les troupes suivaient à leur tour, et dans le faubourg sordide, cette longue rue de la Roquette, déjà fourmillante à perte de vue, s'engouffrait toute une armée. Fantassins, dragons, lanciers, carabiniers, lourds canons, la gueule en l'air, prêts à aboyer, ébranlant les pavés et les vitres, mais ne parvenant pas à couvrir le ronflement des tambours, ronflement sinistre et sauvage qui rappelait l'imagination de Félicia vers ses funérailles de négous africains où des milliers de victimes immolées accompagnent l'âme d'un prince pour qu'elle ne s'en aille pas seule au royaume des esprits, et lui faisait penser que, peut-être, cette pompeuse et interminable suite allait descendre et disparaître dans la fosse surhumaine assez grande pour la contenir toute. « Maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il, » murmura la crène Mitz pendant que le fiacre s'ébranlait sur la place éclaircie, où la liberté tout en or semblait prendre là-haut dans l'espace une magique envolée. Et cette prière de la vieille danseuse fut peut-être la seule note émue et sincère soulevée sur l'immense parcours des funérailles. Tous les discours sont finis, trois longs discours, aussi glaciales que le caveau où le mort vient de descendre, trois déclamations officielles qui ont surtout fourni aux orateurs l'occasion de faire parler bien haut leur dévouement aux intérêts de la dynastie. 15 fois les canons ont frappé les échos nombreux du cimetière, agité les couronnes de jais et d'immortels, les ex-voto légers pendus aux angles des entourages, et tandis qu'une buée rougeâtre flotte et roule dans une odeur de poudre à travers la ville des morts, monte et se mêle lentement aux fumées d'usine du quartier plébéien, l'innombrable assemblée se disperse aussi, disséminée par les rues en pente, les hauts escaliers tout blancs dans la verdure, avec un murmure confus, un ruissellement de flots sur les roches. Robes pourpres, robes noires, habits bleus et verts, aiguillettes d'or, fines épées qu'on assure de la main en marchant, se hâtent de rejoindre les voitures. On échange de grands saluts, des sourires discrets, pendant que les carrosses de deuil dégringolent les allées au galop, montrent des alignements de cochers noirs, le dos arrondi, le chapeau en bataille, le carrick flottant au vent de la course. L'impression générale, c'est le débarras d'une longue et fatigante figuration. un empressement légitime à aller quitter le harnais administratif, les costumes de cérémonie, à déboucler les ceinturons, les hausse-cols et les rabats, à détendre les physionomies qui, elles aussi, portaient des entraves. Lourd et court, traînant péniblement ses jambes enflées, Emmerlingue se dépêchait vers la sortie, résistant aux offres qu'on lui faisait de monter dans les voitures, sachant bien que la sienne seule était à la mesure de son éléphantiasis. « Baron, baron, par ici, il y a une place pour vous. »«
Non, merci, je marche pour me dégourdir. »
Et, afin d'éviter ces propositions qui à la longue le gênaient, il prit une allée transversale, presque déserte, trop déserte même, car à peine y fut-il engagé que le baron le regretta. Depuis son entrée dans le cimetière, il n'avait qu'une préoccupation, la peur de se trouver face à face avec Jean Soulet, dont il connaissait la violence et qui pourrait bien oublier la majesté du lieu, renouveler en plein Père Lachaise le scandale de la rue Royale. Deux ou trois fois pendant la cérémonie, il avait vu la grosse tête de l'ancien copain émerger de cette quantité de types incolores dont l'assistance était pleine et se diriger vers lui, le chercher avec le désir d'une rencontre. Encore là-bas dans la grande allée, on aurait eu du monde en cas de malheur, tandis qu'ici, brrr, c'est cette inquiétude qui lui faisait forcer son pas court, son haleine soufflante, mais en vain, comme il se retournait dans sa peur d'être suivi, les hautes et robustes épaules du nabab apparurent à l'entrée de l'allée. Impossible au poussa de se faufiler dans les trois écarts des tombes, si serrées que la place y manque aux agenouillements. Le sol gras et détrempé glissait, s'enfonçait sous ses pieds. Il prit le parti de marcher d'un air indifférent, content que l'autre ne le reconnaîtrait peut-être pas. Mais une voix éraillée et puissante cria derrière lui « Lazare !» Il s'appelait Lazare, ce Richard. Il ne répondit pas, essaya de rejoindre un groupe d'officiers qui marchait devant lui, très loin. « Lazare, oh, Lazare !» Comme autrefois sur le quai de Marseille, il fut tenté de s'arrêter sous le coup d'une ancienne habitude, puis le souvenir de ses infamies, de tout le mal qu'il avait fait au nabab, qu'il était en train de lui faire encore, lui revint tout à coup avec une peur horrible poussée au paroxysme, lorsqu'une main de fer brusquement le harponna. Une sueur de lâcheté courut par tous ses membres avachis, son visage jaunit encore, ses yeux clignotèrent au vent de la formidable claque qui l'attendait venir, tandis que ses gros bras se levaient instinctivement pour parer le coup. « Oh, n'aie pas peur, je ne te veux pas de mal, » dit Jean Soulet tristement. « Seulement je viens te demander de ne plus m'en faire. » Il s'arrêta pour respirer. Le banquier, stupide, effaré, ouvrait ses yeux ronds de chouette devant cette émotion suffocante. « Écoute, Lazare, c'est toi qui es le plus fort à cette guerre que nous ne faisons depuis si longtemps. Je suis à terre, j'y suis, là. Les épaules ont touché. Maintenant, sois généreux. Épargne ton vieux copain, fais-moi grâce, voyons, fais-moi grâce !» Tout tremblait en ce méridional effondré, amolli par les démonstrations de la cérémonie funèbre. Emmerlingue, en face de lui, n'était guère plus vaillant. Cette musique noire, cette tombe ouverte, les discours, la canonnade et cette haute philosophie de la mort, inévitable, tout cela lui avait remué les entrailles à ce gros baron. La voix de son ancien camarade acheva de réveiller ce qui restait d'humain dans ce paquet de gélatine. Son vieux copain. C'était la première fois depuis 10 ans, depuis la brouille, qu'il le revoyait de si près. Que de choses lui rappelaient ses traits basanés, ses fortes épaules si mal taillées pour l'habit brodé. La couverture de laine mince et trouée, dans laquelle ils se roulaient tous deux pour dormir sur le pont du Sinaï, la ration partagée fraternellement, les courses dans la campagne brûlée de Marseille où l'on volait de gros oignons qu'on mangeait crus au revers d'un fossé, les rêves, les projets, les sous mis en commun, et quand la fortune commença à leur sourire, les farces qu'ils avaient faites ensemble, les bons petits soupers fins où l'on se disait tout, les coudes sur la table. Comment peut-on en arriver à se brouiller, quand on se connaît si bien, quand on a vécu comme deux jumeaux pendus à une maigre et forte nourrice, la misère, partager son lait aigri et ses rudes caresses? Ces pensées, longues à analyser, traversaient comme un éclair l'esprit d'Emmerlingue. Presque instinctivement, il laissa tomber sa main lourde dans celle que lui tendait le nabab. Quelque chose d'animal s'émut en eux, plus fort que leur rancune, et ces deux hommes qui, depuis 10 ans, essayaient de se ruiner, de se déshonorer, se mirent à causer à cœur ouvert. Généralement, entre amis qui se retrouvent, les premières effusions passées, on reste muet,
comme si l'on n'avait plus rien à se compter. Tandis qu'au contraire, c'est l'abondance des choses, leur afflux précipité qui les empêche de sortir. Les deux copains en étaient là, mais Jean Soulet serrait bien fort le bras du banquier dans la crainte de le voir s'échapper, résister au bon mouvement qu'il venait de provoquer en lui. « Tu n'es pas pressé, n'est-ce pas? Nous pouvons nous promener un moment si tu veux. Il ne pleut plus, il fait bon. On a 20 ans de moins. » « Oui, ça fait plaisir, » dit Emmerling. « Seulement, je ne peux pas marcher longtemps, mes jambes sont lourdes. »« C'est vrai, tes pauvres jambes. Tiens, voilà un banc là-bas. Allons nous asseoir. Appuie-toi sur moi, mon vieux. » Et le nabab, avec des attentions fraternelles, le conduisait jusqu'à un de ces bancs espacés contre les tombes où se reposent ces deuils inconsolables qui font du cimetière leur promenade et leur séjour habituel. Il l'installait, le couvait du regard, le plaignait de son infirmité, et par un courant tout naturel dans un pareil endroit, ils en arrivaient à causer de leur santé, de l'âge qui venait. L'un était hydropique, l'autre sujet au coup de sang. Tous deux se soignaient par les perles Jenkins, un remède dangereux, à preuve, Mora si vite enlevé. « Mon pauvre duc, » dit Jean Soulet. « Une grande perte pour le pays, » fit le banquier d'un air pénétré, et le nabab naïvement. « Pour moi surtout, pour moi, car s'il avait vécu. Ah, oh, tu as de la chance, tu as de la chance !» Craignant de l'avoir blessé, il ajouta bien vite. « Et puis voilà, tu es fort, très fort !» Le baron le regarda en clignant de l'œil, et si drôlement que ses petits cils noirs disparurent dans sa graisse jaune. « Non, dit-il, ce n'est pas moi qui suis fort, c'est Marie. »« Marie ? Oui, la baronne. Depuis son baptême, elle a quitté son nom de Yamina pour celui de Marie. C'est ça, une vraie femme. Elle connaît la banque mieux que moi, et Paris et les affaires. C'est elle qui mène tout à la maison. »« Tu es bien heureux, » soupira Jean Soulet. Sa tristesse en disait long sur ce qui manquait à Mademoiselle Afchin. Puis, après un silence, le baron reprit. « Elle t'en veut beaucoup, Marie, tu sais. Elle ne sera pas contente d'apprendre que nous nous sommes parlé. » Il fronçait son gros sourcil, comme s'il regrettait leur réconciliation à la pensée de la scène conjugale qu'elle lui voudrait. Jean Soulet bégaya. « Je ne lui ai rien fait, pourtant. »« Allons, allons, vous n'avez pas été bien gentil pour elle. Pense à l'affront qu'elle a subi lors de notre visite de noces, ta femme nous faisant dire qu'elle ne recevait pas les anciennes esclaves, comme si notre amitié ne devait pas être plus forte qu'un préjugé. » Les femmes, n'oublie pas ces choses-là. Mais je n'y suis pour rien, moi, mon vieux. Tu sais comme tous ces Afchins sont fiers. Il n'était pas fier, lui, le pauvre homme. Il avait une mine si piteuse, si suppliante devant le sourcil froncé de son ami, que celui-ci en eut pitié. Décidément, le cimetière l'attendrissait, ce baron. Écoute, Bernard, il n'y a qu'une chose qui compte. Si tu veux que nous soyons camarades comme autrefois, que ces poignées de main que nous avons échangées ne soient pas perdues. Il faut obtenir de ma femme qu'elle se réconcilie avec vous. Sans cela, rien de fait. Lorsque Mademoiselle Afchin nous a refusé sa porte, tu l'as laissé faire, n'est-ce pas? Moi de même, si Marie me disait en rentrant « Je ne veux pas que vous soyez amis ». Toutes mes protestations ne m'empêcheraient pas de te flanquer par-dessus bord, car il n'y a pas d'amitié qui tienne. Ce qui est encore meilleur que tout, c'est d'avoir la paix chez soi. « Mais alors, comment faire ?» demanda le nabab épouvanté. « Je m'en vais te le dire. La baronne est chez elle tous les samedis. Viens avec ta femme lui faire une visite après-demain. Vous trouverez à la maison la meilleure société de Paris. On ne parlera pas du passé. Ces dames causeront chiffon et toilette, se diront ce que les femmes se disent, et puis ce sera une affaire finie. Nous redeviendrons amis comme autrefois. Et puisque tu es dans la nasse, eh bien, on t'en tirera. » « Tu crois ? C'est que j'y suis terriblement, » dit l'autre avec un hochement de tête. De nouveau, les prunelles narquoises des merlingues disparurent entre ses joues comme deux mouches dans du beurre. « Dame, oui, j'ai joué serré. Toi, tu ne manques pas d'adresse. Le coup des 15 millions prêtés aux baies, c'était trouvé, ça. Ah, tu as dû touper. Seulement, tu tiens mal tes cartes. On voit ton jeu. » Ils avaient jusqu'ici parlé à demi-voix, impressionnés par le silence de la grande nécropole. Mais peu à peu, les intérêts humains haussaient le ton au milieu même de leur néant étalé sur toutes ces pierres plates, chargées de dates et de chiffres, comme si la mort n'était qu'une affaire de temps et de calcul, le résultat voulu d'un problème. Emmerling jouissait de voir son ami si humble, lui donnait des conseils sur ses affaires qu'il avait l'air de connaître à fond. Selon lui, le nabab pouvait encore très bien s'en tirer. Tout dépendait de la validation, d'une carte à retourner. Il s'agissait de la retourner bonne. Mais Jean Soulet n'avait plus confiance En perdant Mora, il avait tout perdu. « Tu perds Mora, mais tu me retrouves, ça se vaut !» dit le banquier tranquillement. « Non, vois-tu, c'est impossible, il est trop tard. Le maire qui a fini son rapport, il est effroyable, paraît-il. »« Eh bien, s'il a fini son rapport, il faut qu'il en fasse un autre, moins méchant. »« Comment cela ?» Le baron le regarda stupéfait. « Ah ça, mais tu baisses, voyons, en donnant 100, 200, 300 000 francs s'il le faut. »« Y songes-tu ? Le maire qui est cet homme intègre, ma conscience comme on l'appelle ?» Cette fois, le rire des merlingues éclata avec une expansion extraordinaire, roula jusqu'au fond des mausolées voisins, peu habitués à tant d'irrespect. « Ma conscience, un homme intègre, ah tu m'amuses, tu ne sais donc pas qu'elle est à moi cette conscience ?» Et que... Il s'arrêta, regarda derrière lui un peu troublé d'un bruit qu'il entendait. « Écoute !» C'était l'écho de son rire, renvoyé du fond d'un caveau, comme si cette idée de la conscience de Lemercier égayait même les morts. « Si nous marchions un peu, dit-il, il commence à faire frais sur ce banc. » Alors, tout en marchant entre les tombes, il lui expliqua avec une certaine fatuité pédante qu'en France, les pots de vin jouaient un rôle aussi important qu'en Orient. Seulement, on y mettait plus de façon que là-bas. On se servait de cache-pot. Ainsi, voilà le merquier, n'est-ce pas ? Au lieu de lui donner ton argent tout à trac dans une grande bourse comme un sérasquier, on s'arrange. Il aime les tableaux, cet homme. Il est toujours en trafic avec Schwalbach, qui se sert de lui pour amorcer la clientèle catholique. Eh bien, on lui offre une toile, un souvenir à accrocher sur un panneau de son cabinet. Le tout est d'y mettre le prix. Du reste, tu verras, je te conduirai chez lui, moi. Je te montrerai comme ça se pratique. » Et tout heureux de l'émerveillement du nabab, qui pour le flatter exagérait encore sa stupeur, écarquillait ses yeux d'un air admiratif, le banquier élargissait sa leçon, en faisait un vrai cours de philosophie parisienne et mondaine. « Vois-tu, copain, ce dont il faut surtout t'occuper à Paris, c'est de garder les apparences. Il n'y a que cela qui compte, les apparences. Toi, tu ne t'en inquiètes pas assez. Tu t'en vas là-dedans, le gilet déboutonné, bon enfant, racontant tes affaires telles que tu es. Tu te promènes comme à Tunis dans les bazars, dans les souks. C'est pour cela que tu t'es fait rouler, mon brave Bernard. » Il s'arrêta pour souffler, n'en pouvant plus. C'était en une heure beaucoup plus de pas et de paroles qu'ils n'en dépensaient pendant toute une année. Ils s'aperçurent alors que le hasard de leur marche et de leur conversation les avait ramenés vers la sépulture des Mora, en haut d'un terre-plein découvert, d'où l'on voyait au-dessus d'un millier de toits serrés, Montmartre, les buttes Chaumont, moutonnés dans le lointain en haute vague. Avec la colline du Père-Lachaise, cela figurait bien ces trois ondulations se suivant à égale distance, dont se compose chaque élan de la mer à l'heure du flux. Dans les plis de ces abîmes, des lumières clignotaient déjà, comme des falots de barque, à travers les buées violettes qui montaient, les cheminées s'élançaient ainsi que des mâts ou des tuyaux de steamers soufflant leur fumée, et roulant tout cela dans son mouvement ondulé, l'océan parisien, en trois bonds chaque fois diminué, semblait l'apporter au noir rivage. Le ciel s'était largement éclairci comme il arrive souvent à la fin des jours de pluie. Un ciel immense, nuancé de teintes d'aurore, sur lequel le tombeau familial des Mora dressait quatre figures allégoriques, implorantes, recueillies, pensives, dont le jour mourant grandissait les attitudes. Rien n'était resté là des discours, des condoléances officielles, le sol piétiné tout autour, des maçons occupés à laver le seuil maculé de plâtre, rappelaient seulement l'inhumation récente. Tout à coup, la porte du caveau ducal se referma de toute sa pesanteur métallique. Désormais, l'ancien ministre d'État restait seul, bien seul, dans l'ombre de sa nuit, plus épaisse que celle qui montait alors du bas du jardin, envahissant les allées tournantes, les escaliers, la base des colonnes, pyramides, cryptes de tout genre, dont le faîte était plus lent à mourir. Des terrassiers tout blancs de cette blancheur crayeuse des eaux desséchées passaient avec leurs outils et leurs besaces. Des deuils furtifs, s'arrachant à regret aux larmes et à la prière, glissaient le long des massifs et les frôlaient d'un vol silencieux d'oiseaux de nuit, tandis qu'aux extrémités du Père-Lachaise, des voix s'élevaient, appel mélancolique annonçant fermeture. La journée du cimetière était finie. La ville des morts, rendue à la nature, devenait un bois immense au carrefour marqué de croix. Au fond d'un vallon, une maison de garde allumait ses vitres. Un frémissement courait, se perdait en chuchotement au bout des allées confuses. « Allons-nous-en, se dirent les deux copains impressionnés peu à peu de ce crépuscule plus froid qu'ailleurs. Mais avant de s'éloigner, Emmerling, poursuivant sa pensée, montra le monument ailé des quatre coins par les draperies, les mains tendues de ses sculptures. « Tiens, c'est celui-là qui s'y entendait à garder les apparences. » Jean Soulet lui prit le bras pour l'aider à la descente. « Ah oui, il était fort. Mais toi, tu es encore plus fort que tous, » disait-il, avec sa terrible intonation gasconne. Emmerling ne protesta pas. « C'est à ma femme que je le dois. Aussi je t'engage à faire ta paix avec elle, parce que sans ça... Oh, n'aie pas peur, nous viendrons samedi. Mais tu me conduiras chez le merquier. » Et pendant que les deux silhouettes, l'une haute, carrée, l'autre massive et courte, disparaissaient dans les détours du grand labyrinthe, pendant que la voix de Jean Soulet guidant son ami « Par ici, mon vieux, appuie-toi bien !» se perdait insensiblement. Un rayon égaré du couchant éclairait derrière eux, sur le terre-plein, le buste expressif et colossal, au large front sous les cheveux longs et relevés, à la lèvre puissante et ironique, de Balzac qui les regardait.